Sur secrétaire général, merci. Nous vous donnons un siège pour que vous puissiez vous asseoir, car vous avez accepté de passer beaucoup de temps parmi nous. Alors, nous avons une liste déjà fort longue, mais vous pouvez également continuer à demander, à prendre la parole. Alors, dans certains cas, on a indiqué la nature de la question, et donc j'ai essayé de regrouper les questions des uns et des autres par thème. Les premières questions portent sur des questions de nature générale en matière de politique. Et dans un premier temps, je voudrais donner la parole à Mme Raza Vasnevičija de Lituanie. Pardon, Andrius Moroni de Lituanie. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire. Pour notre pays, et croyez-moi, vous avez fait beaucoup œuvrer pour notre pays, donc merci infiniment. La question que je poserai sera très simple. Dans l'environnement sécuritaire actuel que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que vous entrevoyez une possibilité pour que l'OTAN augmente sa présence dans la région d'une manière ou d'une autre? Je pense par exemple à l'établissement de bases militaires permanentes dans la région. Merci. À présent, je donne la parole à M. Dragan Serbias de Serbie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, Mesdames et Messieurs. J'aurai un bref appel à lancer au nom de la Serbie. Tout d'abord, je voudrais remercier nos amis lituaniens d'avoir organisé cette session de printemps de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN ici à Vilnius. Et étant donné l'importance de l'ensemble des dossiers que nous allons aborder au cours des prochains jours, j'espère que ces réunions seront productives. Comme vous le savez, la Serbie, à l'instar d'autres pays dans la région, la Bosnie et la Croatie notamment, fait face à des catastrophes naturelles très importantes. Bon nombre de villes, de terrains agricoles et de forêts ont été inondés et l'on imagine d'ores et déjà les conséquences que ceci pourrait avoir. Bon nombre de maisons, de voies ferroviaires, de centrales électriques devront être reconstruites. Et donc, je saisis cette opportunité pour remercier l'ensemble des pays, des gouvernements, ainsi que l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et les particuliers qui nous ont apporté un soutien. Et nous sommes très reconnaissants par rapport à tous ces acteurs qui ont aidé nos pays dans ces circonstances difficiles. Je voudrais notamment remercier l'Union européenne pour l'ensemble du soutien et de l'aide qui nous a été apporté. Nous espérons que ce type de coopération pourra se poursuivre à l'avenir. Par ailleurs, je voudrais vous rappeler que nous continuons d'être prêts à recevoir une aide et une assistance au cours des prochains jours, notamment entendu que la reconstruction de ces infrastructures inondées sera absolument essentielle pour nous. Merci infiniment de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole. À présent, je donne la parole à Cheryl Gallant du Canada. Monsieur le Secrétaire Général, indépendamment de ce, ou quoi que dise Poutine, il fait l'inverse. Pour l'article, il dit qu'il respecte le droit international, qu'il souhaite négocier avec l'ensemble des pays intéressés. Alors, étant donné les actions de la Russie en Ukraine et ce qui s'est passé entre la Russie et la Chine sur le gaz et le partage avec la Chine, des licences d'exploration en Arctique. Est-ce que, de votre point de vue, le niveau de menace pour la souveraineté nord-américaine en Arctique a évolué? Merci infiniment. Tout d'abord, Monsieur Moronis, je vous remercie pour vos mots des plus aimables. Par rapport à votre question sur la présence de bases permanentes, permettez-moi de m'exprimer dans les termes suivants. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'à l'avenir, nous allons voir et nous allons avoir besoin d'une présence visible sur l'ensemble du territoire de l'OTAN. J'espère que lors du sommet, nous serons en mesure d'adopter un plan d'action pour la préparation. L'objectif sera d'accroître notre niveau de préparation et notre réactivité. Ce que l'on a pu voir, ce sont des forces armées russes plus modernes qui sont capables d'agir dans les quelques heures qui suivent une éventuelle position ou décision politique. Évidemment, c'est quelque chose auquel nous devons nous adapter. Cela comprend également des considérations au sujet de ce que j'ai appelé le déploiement approprié. Alors, il est encore un peu prématuré de dire exactement quelle nature ceci pourrait prendre ou quelle forme ceci pourrait prendre. En l'occurrence, nous allons envisager des mesures qui comprendront la préparation au renforcement rapide, les bases d'infrastructure, le prépositionnement que l'on renforce nos exercices qui devront avoir lieu dans cette partie de l'Alliance. Donc il y a bon nombre de possibilités qui s'offrent à nous et nous les étudions de manière détaillée et je pense que des décisions concrètes seront prises à ce sujet lors du sommet. Monsieur Thomas, il s'agissait plus d'un commentaire que d'une question, mais malgré tout, permettez-moi de faire part de mes sentiments de sympathie à l'endroit du peuple serbe, qui a tellement souffert de cette catastrophe naturelle et bien entendu les familles touchées par ces terribles inondations sont dans nos pensées. Je me suis rendu en Bosnie-Herzégovine récemment et la Bosnie a demandé une aide de l'OTAN et nous avons donner une réponse positive à cette demande. Je note également que un certain nombre de pays ont apporté leur soutien à la Serbie. Madame Galland du Canada, il me semble que c'était en décembre que le président Poutine a fait un discours au sujet de l'approche de la Russie par rapport à l'Arctique. Et c'était assez intéressant. Il ne fait aucun doute que les Russes vont plus se concentrer sur l'Arctique à l'avenir. Et de ma part, de mon côté, je considère que les alliés de l'OTAN devront traiter ce dossier. Et je le dis notamment parce que ce n'est un secret pour personne. Jusqu'à présent, le Canada a parfois été un petit peu réticent à l'heure de voir un rôle trop important ou trop actif pour l'OTAN dans l'Arctique. Alors, ici je ne parle pas de station militaire dans l'Arctique, mais de toute évidence le fait que de nouvelles routes maritimes vont être ouvertes du fait du changement climatique et qu'il y aura un accès plus aisé aux ressources naturelles de la région, voilà qui n'est pas sans accroître le risque de tensions supplémentaires dans la région. Et étant entendu le discours de Poutine sur l'Arctique, je crois que nous devons nous tenir prêts à faire face à cela. Merci beaucoup. Il y a trois autres intervenants. Monsieur Boris Blazekovic de Croatie, suivi de Gilbert Lebris de la France, et M. Thomas Hörke de Suisse. Boris, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, merci infiniment pour votre discours. Merci d'avoir fait part de vos réflexions ici aujourd'hui. La Charte des Nations Unies, nous le savons, identifie la visée de l'organisation qui est de préserver la paix et la sécurité internationale, de développer des relations amicales entre les pays, et de réaliser une coopération internationale à l'heure de faire face aux problèmes culturels, sociaux et humanitaires. À ces fins, les relations avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales qui ont un rôle dans le domaine sécuritaire a beaucoup évolué depuis le début des années 90. En fait, ce que je tiens à indiquer, c'est que dans le cadre des opérations d'urgence civile, et notamment par rapport au rôle de l'OTAN à l'heure de de compléter les efforts de l'ONU pour ce qui concerne les catastrophes naturelles, par exemple, et la coopération avec l'ONU sur le terrain, les échanges réguliers. Il semblerait que cette coordination pourrait être améliorée, et ce, beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous ne parlons pas ici d'une entité conjointe, dans la mesure où nous parlons de deux organisations différentes qui peuvent travailler ensemble dans le domaine de la gestion de crise civile. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une institutionnalisation permanente des relations entre les deux organisations pour qu'il y ait des actions sur la durée entre l'OTAN et l'ONU dans le domaine de l'aide humanitaire et des réactions suite à des catastrophes? Merci beaucoup, Boris. À présent, je donne la parole à Gilbert Lebré de France.
Secrétaire général, avec les salutations de la délégation française, je vous pose une question sur le prochain sommet de l'OTAN. Une déclaration donc sur le lien transatlantique va être adoptée par les chefs d'État et de gouvernement. C'était d'ailleurs votre troisième point. Une telle réaffirmation est nécessaire. Vu d'Europe, le flanc sud avec l'Afrique subsaharienne, le flanc est avec une situation très tendue que nous connaissons dans l'est de l'Ukraine, le flanc sud-est avec la Syrie et l'Iran, doit faire l'objet d'une grande vigilance du point de vue de notre sécurité collective. Vu des États-Unis, ces menaces pèsent non seulement sur la sécurité régionale de leurs alliés, mais aussi sur la sécurité globale, leur sécurité globale. Il y a la question de l'ampleur des modalités du rééquilibrage américain vers l'Asie, avec ses conséquences pour l'Europe, dans un contexte budgétaire peu favorable. Donc, il faut qu'il y ait une volonté très réelle des États européens à prendre leur part du fardeau, c'est-à-dire à ne pas être simplement des consommateurs de défense, mais aussi des acteurs véritables de leur défense. Alors ma question, c'est quelle priorité proposerez-vous aux chefs d'État et de gouvernement de développer pour conforter concrètement ce lien transatlantique auquel nous sommes tous très attachés?
Thank you, Gilbert.
Merci, Gilbert. À présent, M. Thomas Erke de Suisse.
The Secretary General.
Comme vous l'avez déjà indiqué, le développement de l'organisation est une question très importante, et la question de l'OTAN après 2014 est également un dossier que nous allons aborder dans notre réunion, dans notre session. Alors je voudrais savoir exactement quel sens ceci peut avoir pour des membres associés tels que la Suisse qui participe au programme du partenariat pour la paix.
Thomas, could you just elaborate?
Thomas, est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus ou au moins redire ce que vous avez indiqué par rapport au partenariat pour la paix? Oui, bien sûr, je peux répéter cette question. Donc, s'agissant de l'évolution de l'organisation et le fait qu'il y ait une plus forte participation des membres de l'OTAN, est-ce que ceci vaut également pour les membres associés tels que la Suisse? Est-ce que cela veut dire qu'il y aura une des relations plus étroites et approfondies? Voilà la question que je pose, car comme vous le savez, en Suisse, nous avons des approches différentes s'agissant de l'OTAN. Je vous remercie.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Merci d'avoir précisé votre interrogation. Alors tout d'abord, M. Blaskovic. J'attache une grande importance aux relations entre l'OTAN et les Nations Unies. Et il y a en l'occurrence eu des évolutions positives au cours de ces dernières années. En 2008, il y a eu un accord entre nos secrétariats s'agissant de ces relations, et sur cette base-là, nous avons pu progressivement renforcer et améliorer les relations entre les Nations Unies et l'OTAN. Et à ce sujet, je dirais qu'une partie de l'avenir de l'OTAN réside dans le fait d'être capable de aider les Nations Unies à mettre en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. C'est en l'occurrence ce que nous avons fait en Libye. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution historique en matière de responsabilité de protéger le peuple libyen contre les attaques dont il était l'objet, et les membres de l'Alliance ont considéré que la meilleure manière de mettre en œuvre cette résolution était de demander à l'OTAN de assurer cette opération. Et c'est ce que nous avons fait, ça a été une réussite, nous avons pleinement mis en œuvre ce mandat. Voilà simplement un exemple que je vous donne concernant cette relation intensifiée entre l'ONU et l'OTAN. D'autre part, vous avez parlé d'opérations humanitaires, et notamment les opérations ou les missions suite à des catastrophes. Évidemment, il s'agit là d'un domaine où l'on pourrait en faire plus. L'OTAN, en l'occurrence, dispose d'une expérience en la matière, et vous vous souviendrez, je pense, du fait que l'OTAN a apporté son aide au Pakistan après un tremblement de terre, et d'autre part, nous avons participé à des missions de post-catastrophe dans d'autres régions du monde. Donc, c'est manifestement un domaine où l'on pourrait en faire plus, y compris de concert avec les Nations Unies. Monsieur Lebris m'a demandé comment l'on pouvait, d'une certaine manière, mettre en œuvre ce souhait de voir d'avoir un lien transatlantique renforcé lors du sommet. Eh bien, une dimension importante à ce sujet, c'est bien évidemment les dépenses en matière de défense et le partage du fardeau, que ce soit en matière de coûts ou de responsabilité au sein de l'Alliance. Alors tout d'abord, en matière de défense, eh bien, je sais fort bien qu'il s'agira là d'un dossier extrêmement délicat. En effet, il y a bon nombre de gouvernements qui ont encore de véritables difficultés financières, qui continuent d'avoir des difficultés en matière de réduction des déficits. Et ce sont là évidemment des points qui sont importants eux aussi. S'agissant de pays vulnérables ou faibles d'un point de vue économique, sont également plus vulnérables. Et l'on ne saurait être en sécurité si l'on est en faillite. Et donc de bonnes politiques économiques, de bonnes politiques budgétaires sont également de bonnes politiques en matière de sécurité. Donc je ne sous-estime absolument pas l'importance d'avoir de bonnes politiques budgétaires. Bien au contraire. Ce qui est positif par contre, c'est qu'à présent, nous voyons des signes très clairs de relance, de reprise économique. Et je crois que nous devons saisir cette opportunité pour inverser la tendance s'agissant des dépenses de défense. En effet, il y a des pays qui ont au présent la possibilité, d'un point de vue financier, d'augmenter leurs investissements en matière de défense. Vous vous souviendrez de ce critère OTAN de 2%. En l'occurrence, c'est en fait un peu plus que 2%, c'est-à-dire que c'est un peu plus nuancé que cela. On indique que les alliés de l'OTAN qui consacrent 2% de leur PIB ou plus à la défense s'engagent à rester au-delà de 2%. Quant aux pays qui dépensent moins de 2% de leur PIB, eh bien, s'engagent à cesser les réductions budgétaires et s'engagent à progressivement se rapprocher de ce taux de 2%. Et en l'occurrence, je pense qu'il s'agit d'une base politique de qualité pour peu qu'elle soit mise en œuvre. Le problème, c'est que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Alors à présent, l'objectif pour le sommet sera de fixer des mesures concrètes pour pouvoir mettre en œuvre ce critère politique. Et je crois qu'il s'agit là d'une des mesures très concrètes qu'il faut prendre, qu'il faut adopter lors du sommet en septembre. Je rajouterai autre chose. Bien souvent, on parle du fossé qui existe notamment entre les États-Unis et l'Europe, ce décalage transatlantique. Je dois également indiquer qu'il existe un fossé entre Européens. En effet, il y a trois alliés européens qui représentent plus de 60% des dépenses en matière de défense européenne. Donc il y a là aussi un déséquilibre au sein de l'Europe qui devra être traité lors du sommet. Donc c'est une question de niveau, certes, mais c'est également une question de partage équitable des coûts et des responsabilités, non seulement de part et d'autre de l'Atlantique, mais également au sein de l'Europe. Enfin, Monsieur Walker de Suisse, nous sommes en train de préparer une initiative qui devra être adoptée au sommet pour renforcer nos partenariats. Je vous dirais qu'il s'agit là d'une offre, d'une proposition, d'une invitation adressée aux pays qui souhaitent renforcer leur interopérabilité avec l'OTAN. Par rapport à ces partenaires qui souhaitent renforcer leur interopérabilité, eh bien nous, nous souhaitons renforcer notre relation. Cela étant, nous laisserons aux partenaires le soin de décider d'eux-mêmes ce qu'ils souhaitent. Nous n'imposons rien à nos partenaires. Cela étant, s'ils le souhaitent, ils peuvent le faire, aller de l'avant et continuer à renforcer leur coopération avec l'OTAN. Voilà qui vaut en particulier pour les partenaires du partenariat pour la paix. Bien, merci, Monsieur le Secrétaire Général. Nous avons trois autres intervenants, Monsieur Wojciechowski de Pologne, suivi de Franklin Van Gleden des Pays-Bas et puis un représentant britannique, Monsieur Palowski.
Merci, Monsieur le Président. J'aimerais joindre ma voix à celle des collègues qui ont félicité le secrétaire général pour le mandat couronné de succès pendant lequel il a pris les rênes des opérations à l'OTAN, la Libye, l'Ukraine. Mais s'agissant de la crise ukrainienne, il ne faut pas parler de crise ukrainienne, il faut parler d'une crise russe, d'agression russe, parce que les transformations économiques d'un pays ne sauraient être considérées comme une crise. Donc c'est une intervention patente, une agression évidente de la part de la Russie. Ma question, Monsieur le Secrétaire Général, vous êtes allé dans les États membres et vous avez fait des discours d'adieu dans ceux-ci. Quelles sont les mesures spécifiques que vous conseilleriez aux pays membres pour que les alliés de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est de l'OTAN soient défendus? Y a-t-il des... Et puis les obligations juridiques consenties pour ce qui est de la Russie de respecter et de défendre les intérêts de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Je ne vois pas qu'on ait souscrit à ces obligations. Je crois qu'il n'y a pas d'obligation qui ait été souscrite par l'OTAN sur le fait de donner à ces pays les mêmes assurances qu'aux pays d'Europe de l'Ouest. Monsieur le secrétaire général, j'aimerais proposer deux idées sur la manière de renforcer notre posture de force. Premièrement, sur la défense antimissile de manière générale, c'est une priorité à l'OTAN. Jusqu'à présent, ce sont surtout les Américains qui ont porté le fardeau et la contribution européenne a été plutôt limitée. N'est-il pas le temps d'encourager une meilleure coopération entre les pays européens de l'OTAN qui ont des capacités, des bâtiments de capacité antimissile balistique? L'Allemagne a deux frégates NT-134, les Pays-Bas aussi. Nous avons quatre commandements de frégates. Et tous les investissements, tous ces ballons pour qu'ils soient capables pour la lutte antimissile, tous les investissements ont été consentis. Maintenant, il faut intégrer les lanceurs, les systèmes d'intégration. Si c'était fait, ça coûterait bien meilleur marché que si on faisait individuellement. Mais finalement, l'achat des SM3, et c'est très cher. Est-ce qu'on pourrait ouvrir la possibilité d'avoir un pool OTAN de missiles SM3? Sinon, pour ce qui est du déploiement de la NRF dans les opérations d'un article 5, comme vous le savez, c'est un problème en raison des procédures très longues, les procédures parlementaires pour obtenir l'assentiment des parlements. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir ensemble à la chose? Je sais qu'il y a des solutions, n'est-il pas temps d'y réfléchir pour améliorer la posture de la NRF? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, vous avez parlé du critère des 2%, c'est important, mais je crois que c'est peut-être un peu brut. Est-ce que vous envisageriez de renforcer cette interprétation de l'engagement à l'OTAN pour que les troupes puissent fournir des capacités d'intervention post-conflit, des experts qui seraient envoyés? Est-ce que cela n'est-il pas aussi important que de fournir de l'argent? C'est très bien de dépenser de l'argent, mais lorsqu'on ne se présente pas sur la ligne de front, et à ce moment-là, à quoi cela sert-il? Ensuite, la nature du conflit a changé depuis que l'OTAN a été créée il y a 65 ans. Maintenant, il n'y a plus, si vous voulez, d'abandon inconditionnel. Il y a plusieurs agences internationales qui se sont chargées de tâches post-conflit qu'elles n'avaient pas du tout l'intention de faire. Autrefois, il s'agissait de gagner la guerre, mais il ne faut pas perdre la paix. Donc, je me demande si on ne peut pas faire davantage pour coordonner de manière formelle nos réactions, notre travail, nos capacités opérationnelles avec ces anciennes organisations issues de Bretton Woods, l'Union européenne, la Banque mondiale, les Nations unies, tous ceux qui sont allés en Irak, en Afghanistan, savent qu'il y a un écart gigantesque entre les combats, le fait d'aller au combat et le fait de maintenir la paix. Merci beaucoup. Monsieur Wasikowski. Je ne suis pas certain d'avoir parfaitement compris votre question, mais bon, je vais essayer de répondre. Essentiellement, vous nous dites qu'il n'y a pas de contrainte juridique, pas d'obligation légale. Et donc, en dernière analyse, notre sécurité dépend en grande partie de nos capacités, n'est-ce pas, de prévoir une défense et une protection concrète de nos alliés. Mais il serait trop facile de dire qu'il n'y a pas d'obligation légale. Il est évident qu'il y en a, parce que c'est en contradiction avec le droit international que d'envahir l'Ukraine, comme la Russie l'a fait. Et de manière générale, nous avons paraphé un document, la Russie tant que l'OTAN, l'acte fondateur, OTAN Russie en 1997, la déclaration de Rome en 2002, qui établit le Conseil OTAN Russie. Et dans ces documents, nous nous engageons à pleinement respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays, de nos pays. Donc, je considère cela ne fût-ce qu'une obligation politique. Mais finalement, vous avez raison de manière générale. En dernière analyse, ce qui garantit notre sécurité, c'est une dissuasion effective pour empêcher n'importe quel agresseur potentiel d'envisager même de nous attaquer, si c'était le cas, d'avoir une défense effective, concrète, pour défendre nos populations et nos sociétés. Monsieur Van Kampen, tout d'abord sur la défense antimissile. Il est vrai que je suis d'accord que les Européens pourraient contribuer davantage et devraient le faire. Nous avons décidé de développer un système de défense antimissile OTAN et le gros de la contribution provient des États-Unis. Mais ceci fait partie, si vous voulez, d'un partage plus juste des coûts et des responsabilités. Et les Européens contribuent aussi. Et une possibilité, comme vous le dites, pourrait être d'utiliser les frégates existantes et les radars qui sont en exploitation en ce moment. Et en passant, justement, les Pays-Bas ont offert de prendre l'initiative d'un tel projet ou d'autres alliés auxquels d'autres alliés pourraient contribuer. Mais il y a aussi d'autres contributions qu'on pourrait envisager. Et puis, nous y travaillons, justement, en préparation du sommet. Certains de ces projets, justement, pourraient être conçus comme des projets multinationaux au titre de la défense intelligente. Pour la NRF, c'est vrai qu'il y a des aspects juridiques, mais en outre de cela, je sais, je suis convaincu que la force d'érection de l'OTAN doit être encore plus réactive. L'objectif de la NRF, en principe, vise à pouvoir déployer rapidement où et quand c'est nécessaire. Mais je suis convaincu, surtout eu égard aux événements récents, que la NRF, ou une partie, ne fût-ce qu'une partie de la NRF, devrait être encore plus réactive, mise sur alerte, beaucoup plus poussée et être en mesure de se déployer très rapidement. Mais cela, bien sûr, comporte des coûts. Et ceci nous amène à la conclusion qu'il nous faudra dépenser davantage pour la défense pour accroître l'état de préparation et la réactivité. Il coûte très cher d'avoir de garder des unités militaires en état d'alerte avancée. Monsieur Rose, je suis d'accord pour dire qu'alors que les contributions sont importantes et que ce critère de 2% est important, ça n'est pas tout. Ça n'est pas que les montants que nous investissons, mais la manière dont ils sont dépensés. Et tout dépend beaucoup de la volonté politique d'utiliser les capacités militaires également au besoin. Parce que sinon, vous avez parfaitement raison, l'argent consacré à la défense ne serait que gaspillé. Et je suis d'accord pour dire que les contributions et les réalisations, les intrants, les extrants doivent être considérés, si vous voulez, les uns avec les autres. Et la déployabilité s'est améliorée de manière générale au sein de l'Alliance au fil des dernières années. Nous sommes arrivés à développer des mesures très perfectionnées, des instruments permettant de mesurer la déployabilité, la capacité de soutien, la soutenabilité, et puis on continue à y travailler. Mais je puis vous dire que nous avons énormément amélioré la déployabilité et la soutenabilité au fil des dernières années. Donc, ceci, bien sûr, doit être pris en compte. Mais il faut toujours faire davantage. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'il nous faut nous concentrer beaucoup plus sur les situations post-conflit. Et cela fait partie de ce que nous pourrions peut-être appeler cette approche globale. Vous disiez que nous gagnons des guerres, mais nous perdons la paix. Écoutez, ça n'est pas la totalité de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a des aspects qui sont vrais. Et même lorsque l'OTAN s'engage dans une opération militaire, elle devrait également penser à la manière dont elle va s'atteler à la situation post-conflit. Ces aspects, justement, sont abordés dans le concept stratégique adopté en 2010. Et pour y donner suite, nous avons justement créé une petite unité au sein de l'OTAN pour s'occuper de concevoir cette approche beaucoup plus globale, parce que nous nous rendons compte que l'OTAN n'a pas toutes ses capacités nécessaires pour traiter d'une situation post-conflit, parce qu'à ce moment-là, comme vous l'avez dit, il y a d'autres organisations qui sont mieux placées pour s'en occuper. Mais il faut améliorer notre capacité d'œuvrer main dans la main avec ces autres organisations pour traiter ces situations post-conflit. Nous avons d'ailleurs tiré énormément d'enseignements à cet égard pendant les opérations en Afghanistan. Donc, tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que l'OTAN devra développer cette approche globale encore davantage dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Il y a énormément de questions qui nous parviennent. Je donne maintenant la parole à Monsieur Pogosian d'Arménie, suivi de Monsieur Chafaridze de Géorgie et John Derby Paulsen du Danemark. Tout d'abord, Monsieur Pogosian. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a à peu près 10 jours, le 20 mai, à Bruxelles, Monsieur le Secrétaire général, vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères Narbanzian d'Arménie et le ministre Sirayanyan d'Arménie également. Après quoi, un rapport a été publié dans les médias à l'effet que de part et d'autre, un engagement avait été souscrit pour le partenariat. Mais de quel partenariat s'agit-il et quel est le genre d'avenir que nous pouvons attendre dans le cadre des relations entre l'Arménie et l'OTAN? J'aimerais maintenant inviter Tedo Jafaridze de Géorgie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, je vous remercie pour une déclaration très intéressante. Et je souhaite vous féliciter au nom de notre délégation et du peuple géorgien pour les réactions très fermes sur l'Ukraine. Vos déclarations sont arrivées à point. Vos déclarations ont porté également sur la sécurité européenne. Pour ce qui est de la Géorgie, j'aimerais vous poser une question sur les relations entre l'OTAN et la Géorgie, mais du point de vue, si vous voulez, plus spécifique de toutes les décisions que l'OTAN a prises. Parce que ces décisions, bien sûr, ont eu un impact sur nos émotions, parce que nous avions des attentes en Géorgie. En 2008, à Bucarest, des décisions ont été prises. On a pris la décision d'offrir le plan d'action pour l'adhésion à la Géorgie. Ensuite, il y a eu le développement démocratique de la Géorgie, dont on a parlé à Chicago. Ensuite, on a parlé des élections, on a parlé de la cohabitation. Et est-ce que nous sachions, personnellement et dans la communauté internationale, vous avez admis qu'il y avait eu des changements qualitatifs dans le développement et l'évolution démocratique de la Géorgie. Donc, les progrès que nous avons accomplis, comment vont-ils être pris en compte à l'OTAN? Et puis, comment la société et le peuple géorgien, quelle est votre évaluation de ce que nous avons fait et qu'est-ce que vous attendez de la Géorgie maintenant, les prochaines étapes? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour un exposé, encore une fois, très intéressant, pour des observations, des remarques très intéressantes. Lorsque vous étiez Premier ministre du Danemark il y a quelques années, je faisais partie de l'opposition. Mais je dois maintenant vous saluer pour l'excellent travail que vous avez fait en qualité de secrétaire général de l'OTAN. Et je dois louer votre performance. J'ai deux brèves questions à vous adresser. On a eu deux commissions qui sont allées à Washington. Nous avons eu une rencontre avec le président de la Banque mondiale dernièrement et il a été très éloquent sur la coopération étroite qu'une coopération étroite devrait se développer, se matérialiser entre la Banque mondiale, l'OTAN et l'ONU. J'aimerais savoir de votre part comment vous pensez que cette coopération pourrait s'articuler et à quel moment. Et ma deuxième question porte sur la Géorgie. Comment voyez-vous les possibilités pour la Géorgie de se voir conférer le statut correspondant au pays candidat cette année à l'OTAN? Merci beaucoup. Tout d'abord, à l'adresse de M. Pagosyan, c'est vrai que nous avons eu une excellente réunion avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Arménie récemment. Et ceci fait partie d'un continuum de concertation avec nos partenaires. Et nous apprécions notre partenariat avec l'Arménie. Vous me demandez comment j'entrevois l'évolution future de ce partenariat et son développement. Eh bien, je commence par la coopération pratique. Nous apprécions le souhait de l'Arménie de renforcer son interopérabilité avec l'OTAN. Une partie du partenariat, justement, consiste à assister l'Arménie dans ses efforts de réforme de la défense. Donc, voilà des domaines où je vois du potentiel de coopération entre nous. Les consultations politiques, eh bien, cela fait également partie de notre partenariat avec l'OTAN, avec l'Arménie. Et ce qui est très utile pour nous, c'est de pouvoir consulter non seulement l'Arménie, mais d'autres pays dans le Sud-Caucase, parce que c'est une région d'intérêt stratégique pour l'OTAN. Il est un fait certain qu'une partie de ces consultations politiques, lorsque nous nous sommes rencontrés récemment, avait pour but d'obtenir une explication de la part de l'Arménie sur la position de l'Arménie sur l'Ukraine. Et il est très utile pour nous d'être au courant, de savoir pourquoi la position de l'Arménie lorsqu'il y a eu un vote sur l'Ukraine à l'ONU, lorsque l'Arménie a décidé de voter comme elle l'a fait. Donc, voilà des exemples de la manière dont notre partenariat avec l'Arménie s'avère très utile. Et voilà comment j'envisage le renforcement de notre coopération, tant pratique que politique. Alors, voilà des exemples. Monsieur Djaparidze de Géorgie, vous nous avez rappelé la décision du sommet de Bucarest prise en 2008 à l'effet que la Géorgie deviendrait membre de l'OTAN à condition que la Géorgie remplisse les conditions nécessaires. Et une partie de cette décision, justement, avait à voir avec le fait que le plan d'action pour l'adhésion serait la prochaine étape. Vous avez fait allusion à plusieurs domaines où la Géorgie a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années, à juste titre, parce que la Géorgie a fait des progrès importants, des élections exemplaires, des réformes du système judiciaire, des réformes du secteur de la défense, et la Géorgie est également le plus grand contributeur non OTAN à nos opérations en Afghanistan. La Géorgie a beaucoup accompli pour ce qui est de répondre à ces critères et pour devenir membre de l'OTAN à l'avenir. Et ceci m'amène à la question, bon, alors que vous avez posé, à quoi peut s'attendre la Géorgie au sommet? C'est un peu tôt pour le prévoir. Nous sommes en processus d'évaluation de chacun des pays candidats, la Géorgie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN discuteront des rapports d'évaluation au moment de leur réunion à la fin du mois de juin. Et j'ose espérer que nous serons en mesure d'atteindre un consensus sur la manière d'aborder la politique d'ouverture au sommet. Donc, c'est un peu tôt. Je ne puis pas vous dire aujourd'hui au juste comment nous allons le faire, mais j'ajoute d'emblée que ce que je pense personnellement, c'est que les progrès accomplis devraient normalement être pris en compte au sommet. Mais il nous faut un consensus et il faudra voir comment nous traitons la chose. Et je pense aussi qu'il faudra prendre en compte les répercussions stratégiques de la situation sécuritaire actuelle en Europe. Et envoyer les bons signaux à Moscou, à savoir que l'attitude de Moscou n'est guère payante. John Derby, mon collègue danois, eh bien, je pense que vous me pardonnerez si je vous remercie tout particulièrement pour vos aimables paroles. Un représentant de ce qui était l'opposition à l'époque au Danemark, qui s'est exprimé de manière aimable, c'est quelque chose qui me touche et je ne vais pas m'en servir contre vous. Donc, un tout grand merci. Et j'apprécie aussi beaucoup vos contributions à la politique de sécurité et de défense danoise. Votre engagement a été sans faille. Encore un grand merci. Vous me demandez comment nous pouvons envisager une coopération plus étroite entre l'OTAN, les Nations Unies, en particulier la Banque mondiale. Et encore une fois, je prends comme exemple cette approche globale et comme exemple concret, je dirais que nous avons déjà invité la Banque mondiale à assister au sommet de l'OTAN lorsque nous avons discuté de l'Afghanistan. Nous avons eu une réunion sur l'Afghanistan où la Banque mondiale était présente, qui peut jouer un rôle important pour ce qui est d'essayer de résoudre des situations post-conflit. Donc voilà un peu comment je vois comment la Banque mondiale pourrait s'insérer dans cette approche globale, ce type d'intervention post-conflit. Et sur la Géorgie et le plan d'action pour l'adhésion, j'ai déjà répondu dans ma réponse à M. Japaredza qu'il est un petit peu tôt pour dire quoi que ce soit sur la manière précise dont nous allons traiter de cette politique de la porte ouverte, en particulier eu égard à la Géorgie. Béatrice Rodriguez de l'Espagne, suivie de M. Droba de Slovaquie, et Mme Ikarkanova de Finlande. Béatrice.
I will switch to Spanish.
Avant tout, en effet, nous voudrions vous féliciter pour votre travail au secrétariat général de l'OTAN, travail brillant, et notre délégation apprécie énormément ce travail réalisé. Cette question que je vais poser, c'est sans doute la quatrième fois que je vous la pose et je suis un petit peu entêtée, je m'en excuse. Il s'agit de l'aide que peut apporter l'OTAN aux camps de réfugiés de la guerre en Syrie dans les pays voisins qui sont si généreux, qu'il s'agisse de la Jordanie, de la Turquie, du Liban ou de l'Irak. Mes collègues de Croatie et du Danemark, également le rapport que nous allons présenter sur le lien transatlantique. Mes collègues ont posé des questions à cet égard et vous avez dit vous-même qu'il serait bon qu'il y ait un lien plus étroit entre les Nations Unies et l'OTAN pour essayer de remédier à ces tragédies humanitaires. C'est une tragédie humanitaire, mais c'est également un très grave danger potentiel pour notre sécurité. Et qui plus est, on ne peut pas attendre. Il y a 3 millions de personnes qui vivent dans des conditions tout à fait inhumaines. J'aimerais donc savoir si vous avez prévu quelque chose pour agir par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire des relations entre l'OTAN et l'ONU dans cette matière. Je vous remercie.
Now, Mr. Juraj Droba.
Monsieur Juraj Droba de Slovaquie. Monsieur le secrétaire général, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir été très franc depuis le tout début de la crise en Ukraine, en appelant les choses par le nom et en appelant l'agression russe une agression, parce que ce ne sont pas tous les membres de l'OTAN qui avaient une description aussi claire de la situation. On a beaucoup parlé de réactivité et on a beaucoup utilisé ces mots. Et en outre de dépenser davantage, comment nous pouvons-nous nous préparer, nous préserver d'interventions comme celle des petits hommes verts à l'est de l'Ukraine et de gros hommes verts en Crimée qui sont intervenus. Je crois qu'il faudra prendre des mesures et les mesures budgétaires ne suffiront pas. Je vous remercie finalement d'avoir participé au sommet du GlobSec à Bratislava. Votre participation a été vraiment essentielle pour faire de ce sommet un sommet véritablement global. Et puisque je crois que c'est votre dernière participation à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN dans vos fonctions, je souhaite vous remercier de la part de notre pays. Vous avez fait de notre organisation une organisation très forte, très solide. Merci beaucoup et bravo, je renchéris. J'aimerais inviter Madame Eka Kanieva de Finlande. C'est monsieur. Oui, je vous prie de m'excuser. Oui, je suis en train d'apprendre mes noms finlandais. Oui, bien entendu, Monsieur le Président. Les élections en Ukraine, le week-end dernier, ont été une première étape extrêmement importante vers la stabilité en Ukraine. Et j'aimerais remercier tous les collaborateurs, Monsieur Lamers, le chef de la délégation de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pour l'excellente coopération. D'autres étapes dans les élections parlementaires sont les élections parlementaires, les prochaines étapes, la constitution et le dialogue. Le soutien donné par la communauté internationale à l'Ukraine est également essentiel. En qualité de représentant d'un pays partenaire de l'OTAN, la Finlande, j'aimerais entendre de votre bouche, Monsieur le Secrétaire général, ce que vous pensez du dispositif global. Est-ce que vous pensez que la pause dans l'élargissement de l'OTAN, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ou c'est exclu? Est-ce qu'il y a des risques? Par exemple, s'il y a des acteurs pertinents qui demandent cela pour essayer d'arriver à une solution pour l'Ukraine.
Mrs. Rodriguez-Salmontes.
Madame Rodriguez-Salmontes, vous avez raison. On m'a déjà posé cette question. S'agissant du soutien de l'OTAN aux opérations de nature humanitaire, et vous êtes principalement concentré sur les camps de réfugiés en Syrie, aux réfugiés syriens dans les pays avoisinant la Syrie, nous n'avons pas reçu ce genre de demande. Et je reste convaincue que cela exigerait de toute manière un mandat des Nations Unies si l'OTAN venait à fournir ce genre d'aide. Alors, sans avoir consulté les alliés, il n'en reste pas moins que je suis convaincue que si nous venions à recevoir une demande sur base d'un mandat des Nations Unies, eh bien, je reste convaincue que les alliés étudieraient cette demande et la verraient sous un jour tout à fait positif. Ce genre de décision exigerait bien sûr un consensus, qui est notre méthode de travail, mais c'est le regard que je jette sur cette question. Si le cadre juridique était en place, je pense que les alliés verraient cela sous un jour positif. Monsieur Droba, vous avez raison. Vous avez raison en mettant le doigt sur cette guerre d'un genre nouveau qui s'exprime aujourd'hui en Crimée et en Ukraine. C'est une combinaison de nombreux éléments. Vous avez mentionné ce qu'on appelle ces petits hommes verts, c'est-à-dire des opérations militaires sous le manteau, avec des équipes de mercenaires non identifiés ou plutôt non identifiables, mais souvent apparentés aux forces spéciales russes et travaillant à la solde des Russes. Ces opérations sont combinées avec des campagnes de désinformation très pointues. Et ces mesures, et par ces mesures, la Russie essaye de déstabiliser l'Est de l'Ukraine, d'abord, avant peut-être de mener d'autres opérations. C'est ce qu'ils ont fait avant l'opération militaire tout à fait ouverte et violente en Crimée. La Russie participe à cet effort de déstabilisation de l'Est de l'Ukraine et cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Nous devons nous adapter. Le but est de nous adapter et c'est vrai qu'à ce stade, les alliés de l'OTAN ne sont pas encore visés, mais si les choses venaient à prendre cette tournure, il faudra prendre des mesures de soutènement. Parce que c'est vrai qu'une opération article 5 claire et évidente, par le truchement de ce genre d'attaque, c'est difficile à définir. Donc, par le biais de vos responsables gouvernementaux, nous devrons parler de tout cela. Nous devons également parler de la propagande et des campagnes de désinformation hautement sophistiquées pratiquées aujourd'hui par la Russie et qui incluent aussi l'engagement des Russes au sein des médias, au sein des ONG qui s'infiltrent partout, y compris dans les pays alliés. Soyons pas naïfs, hein, c'est exactement de cela que je vous parle. Alors cela étant dit, j'ajouterai tout de même que ce n'est pas nécessairement la tâche de l'OTAN seule. Cela va bien au-delà de ce qu'est le noyau dur des activités et les responsabilités essentielles de l'Alliance. C'est un excellent exemple de domaine où l'Alliance doit se tourner vers d'autres organisations, notamment l'Union européenne, et travailler main dans la main avec ces organisations. Je suis d'accord avec vous, nous avons là, un domaine d'activité sur lequel nous devons absolument nous concentrer à l'avenir. Enfin, M. Kaneva de Finlande, si je vous suis bien, vous aimeriez savoir si nous pourrions envisager d'exclure tout élargissement futur de l'Alliance dans le but de procéder à une désescalade des tensions en Europe. Je serai très clair. C'est un principe tout à fait fondamental que chaque pays a le droit de décider de sa politique de sécurité, de ses alliances et de ses préférences en matière d'alliances, et ce librement. Ce n'est ni à la Russie ni à aucun pays tiers de s'immiscer dans les décisions de l'Alliance sur la politique de la porte ouverte ou sur les élargissements futurs. C'est une question qui doit être traitée au sein de l'Alliance et en étroite collaboration entre l'Alliance et les pays qui sont candidats à l'adhésion. C'est la raison pour laquelle notre porte reste ouverte, ouverte aux démocraties européennes qui répondent aux critères que nous nous sommes fixés, notamment l'aptitude à contribuer à la sécurité transatlantique et l'aptitude que ces pays ont de défendre et promouvoir les valeurs qui nous rassemblent. C'est ce que nous disons dans l'article 10 de l'Alliance, nous nous y tenons. Nous le répéterons au sommet, au Pays de Galles, nous répéterons que notre porte reste bel et bien ouverte. Et j'ajouterai d'ailleurs dans la foulée que l'OTAN n'est pas une menace pour la Russie. Je le répète, nous n'avons jamais eu l'intention d'attaquer la Russie. Nous pouvons voir dans la doctrine militaire russe que les Russes considèrent l'Alliance Atlantique comme un adversaire. Mais, désolé, nous ne pouvons pas accepter, nous ne devons pas accepter la rhétorique russe. Les Russes qui affirment que la politique de porte ouverte que nous pratiquons est une menace pour la Russie. Lorsque nous avons adopté l'acte fondateur OTAN-Russie en 1997 déjà, nous avons dit que l'OTAN et les alliés de l'OTAN n'utiliseraient pas la force contre la Russie et vice-versa, que la Russie n'utiliserait pas la force ni contre l'OTAN ni contre ses alliés. Eh bien, nous nous en tenons à ces principes. Trois questions supplémentaires. Nous allons commencer par M. Pierre Lelouch de la France, par ensuite José Yello du Portugal et puis M. Kaunins de Lettonie. Pierre.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, vous avez eu une période aux affaires extrêmement lourde. Votre charge de secrétaire général est intervenue au moment où il y a eu la pire crise financière dans le monde, où on a assisté aux révolutions arabes, à l'inflammation terroriste en Afrique, au Mali, s'ajoute à cela le problème de la Centrafrique aujourd'hui, et tout ça culmine avec une tension très forte avec la Russie autour de l'Ukraine, mais pas seulement l'Ukraine. Je pense à nos amis géorgiens, moldaves et autres. Donc c'est une période qui a été très très difficile. Vous en concluez une analyse que je partage totalement, à savoir, vous nous expliquez que nous sommes entourés par un arc de crise et vous avez défini le problème, à savoir la chute de l'effort de défense de notre côté de 10% et une augmentation conséquente de l'effort de défense russe, mais vous auriez pu dire aussi de la Chine, et vous auriez pu aussi parler des ambitions nucléaires de l'Iran. Bref, les menaces s'accumulent et notre effort de défense baisse. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est quelles leçons tirez-vous de votre mandat de secrétaire général ? Quel bilan ? Je sais que ce n'est pas tellement le lieu, il y a trop de monde ici pour parler à cœur ouvert, mais quel est, à votre avis, votre plus grand succès et votre plus grand échec? Et deuxièmement, quand on regarde l'avenir, que pensez-vous du discours du président Obama il y a deux jours, qui, pour ma part, m'a un tout petit peu étonné, mais enfin, quand on avait entendu « leading from behind », je crois que ça voulait dire beaucoup de choses. Donc, à partir de là, quelle perspective pensez-vous pour l'Alliance dans ce contexte? Merci de votre réponse.
Thank you, Pierre. And now, José.
Merci, Pierre. José Lelo, du Portugal. Merci. Monsieur le secrétaire général, tout d'abord, mes félicitations pour le magnifique travail que vous avez abattu à la barre en tant que secrétaire général de l'OTAN. Alors, bien sûr, nous avons plus de moyens que jamais pour pratiquer la dissuasion à l'Alliance. Mais dans des zones de conflit comme l'Afghanistan, le Sahel, nous sommes confrontés à un ennemi invisible. Les tenants de la guerre classique ne sont plus présents. L'ennemi n'est pas vu, il ne porte pas uniforme, il ne brandit pas bannière. Est-il, regardez les volontaires pro-russes, regardez sous le manteau les forces spéciales russes qui utilisent des mercenaires et qui utilisent aussi du matériel extrêmement sophistiqué. Je pense aux lance-missiles, etc., etc. Donc, c'est... conflits asymétriques appellent de nous des investissements plus pointus que jamais et nous ne les faisons pas. Je n'ai pas de solution. En avez-vous une? Je vous remercie. Ojos Kaulins de Lettonie. Merci, Monsieur le Président. Au nom de la Lettonie, Monsieur le Secrétaire Général, moi aussi, je me dois de vous remercier pour vos qualités de leader et pour le soutien à la police du ciel au-dessus des États baltes. Les cieux sont au-dessus de nos têtes, beaucoup. Je crois que les actions de la Russie, justement, renouvellent la raison d'être de l'OTAN. Alors certes, nous devons augmenter les dépenses de défense, et pourtant, certains États membres continuent à vendre des armes à la Russie. Voyez-vous une contradiction dans ces termes? Ou, pour le reformuler, est-ce que la défense intelligente, c'est armer un pays contre lequel nous allons être amenés à nous défendre? Je vous pose la question. Merci. Premièrement, Monsieur Lellouche, quels enseignements puis-je tirer de 5 années à la barre de l'Alliance en tant que secrétaire général? C'est une question qui me tourmente un peu. Je dirais qu'une première leçon très importante que je tire tient compte des événements récents. Elle est la suivante. Afin de prévenir les conflits, il faut être prêt à pratiquer la dissuasion de manière à ce que tout agresseur potentiel ne pense même pas, n'envisage même pas de vous attaquer. Ce serait une erreur que de croire que l'apaisement entraîne nécessairement la paix. Je suis convaincue que les solutions politiques et diplomatiques seront souvent facilitées si vous êtes prêt à faire usage de la force. Et certes, nous aspirons tous à la paix, c'est une évidence. Toutefois, afin de garantir cette paix et avec elle la liberté, bien sûr, vous devez être prêt à protéger et à promouvoir vos valeurs, vos principes. Et parfois, cela peut signifier serrer la vis. Et c'est l'un des enseignements de ce que je tire de ces 5 années à la barre. Ce qui m'entraîne vers un autre enseignement. Il est absolument essentiel que nous ayons une perspective qui se projette vers l'extérieur, qui se projette sur l'échiquier mondial. Je ne dis pas que l'Alliance doit être le gendarme du monde, certes pas, mais je veux dire que nous devons avoir la volonté de nous engager hors des frontières de l'Alliance, de projeter nos valeurs essentielles afin de garantir la sécurité de nos populations et afin aussi de protéger nos sociétés. Pour moi, le plus grand risque, c'est le retranchement. Et je J'aimais toutes les mises en garde d'usage. Ne nous retranchons pas. Nous retrancher, cela voudrait dire laisser un vide sécuritaire qui sera très vite occupé par des puissances qui, au monde, investissent de plus en plus dans leur défense, dans leur sécurité. Et vous avez mentionné la Chine, excellent exemple. Nous vivons aujourd'hui un changement de l'équilibre mondial des forces. Nous coupons, nous hachons dans les budgets de défense. Nous investissons de moins en moins dans la défense et dans la sécurité, alors que d'autres régions du globe investissent de plus en plus dans cette défense et cette sécurité. Et cela aura des conséquences. Nous devrions donc nous concentrer sur ces implications stratégiques, sur tout ce que cela veut dire que de consentir à des investissements réduits en matière de défense et de sécurité. Et s'il me faut parler de l'avenir de notre alliance, il est important pour moi d'insister sur le fait que nous devons certes nous concentrer sur la défense de nos territoires, des territoires de nos États membres de l'OTAN, mais il ne faut pas oublier les défis sécuritaires qui exigent de nous que nous soyons aussi capables de participer à la gestion des crises à l'échelle internationale. Et de nous concentrer sur la sécurité en coopération. Et en termes pratiques, cela veut dire de développer des partenariats forts avec des partenaires aux quatre coins du monde. C'est comme cela que moi, je vois l'avenir de l'OTAN. Et c'est intéressant, c'est vrai que cela fait 2-3 mois que beaucoup de choses se passent. Et je me souviens encore de toutes les questions qui étaient posées sur c'est quoi l'avenir de l'OTAN, qu'est-ce qu'il adviendra après l'Afghanistan. Tout cela a disparu de nos écrans radars. Plus personne ne remet en doute l'avenir de l'OTAN aujourd'hui. Tout le monde est convaincu que la situation de sécurité en Europe a changé de manière radicale. Tout le monde peut voir et comprendre aujourd'hui quelle est la valeur intrinsèque d'une alliance comme l'OTAN. Mais il ne faut pas oublier toute l'ampleur, toute l'échelle des défis sécuritaires qu'il nous faut relever. Monsieur Lello, vous avez également mentionné ce nouveau type de conflit. J'en ai déjà longuement parlé. Je n'entre pas dans l'ensemble des détails, mais personnellement, je suis convaincue que le rôle de l'Alliance et des forces spéciales de l'OTAN s'exprimera de manière plus forte encore à l'avenir. Et j'ajouterai, soit dit en passant, qu'en étroite collaboration avec d'autres organisations internationales, nous devrions vraiment regarder de très près à la manière dont nous pouvons contrer les opérations de désinformation et de propagande. Nous devons être plus efficaces sur ce terrain-là. Il en va aussi des communications stratégiques de notre part, des communications stratégiques que nous pouvons projeter. C'est là partie des questions que nous devons aborder et qui sortent, c'est vrai, des sentiers battus du travail coutumier de l'OTAN. Mais cela se fera en étroite collaboration avec les autres organisations internationales, je vous le disais. Monsieur Kalnitz, alors vous n'avez pas précisé dans votre question mais je crois savoir sur quoi vous avez mis le doigt. Je dirais tout simplement que les questions de commerce, de fourniture d'équipements militaires sont des questions d'ordre éminemment national. Ce sont des décisions qui se prennent au niveau des pays. Alors je vous parle, nous réexaminons nos relations avec la Russie. Vous le savez, nous avons décidé de suspendre toute coopération pratique avec la Russie. Nous gardons un canal de communication et consultation politique ouvert au sein du Conseil OTAN-Russie. Et d'ailleurs, nous aurons une réunion du Conseil OTAN-Russie lundi, ce lundi, mais nous avons suspendu toute coopération pratique avec la Russie. Et les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance vont revoir encore les relations à long terme avec la Russie lors de leur rencontre fin juin. Je suis confiant. Je pense que tous les alliés prendront des décisions au niveau national s'agissant des relations avec la Russie, mais en inscrivant ces décisions dans un contexte qui est le contexte de l'OTAN, de l'Alliance. Le secrétaire général reste encore parmi nous pendant 21 minutes et j'ai encore 15 questions. Je pense que je ne vais pas arriver à boucler la liste, mais je demanderai à tous ceux qui veulent prendre la parole de s'exprimer avec la brièveté d'usage. Alors, je donne d'abord la parole à M. Ali Reza Napoleon de Turquie, puis à Lorenzo Battista et puis à Lord Joplin du Royaume-Uni. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me dois de remercier le secrétaire général pour son dur labeur. Pendant son mandat, l'OTAN a contribué très largement à la paix et à la sécurité dans le monde. Parfois, on vous pose des questions pièges, Monsieur le secrétaire général, mais je dois dire que vous avez toujours répondu avec grande clarté, avec grande franchise et grande honnêteté. Ma question porte sur le processus décisionnel à l'OTAN. La situation de l'Ukraine et de la Crimée plus particulièrement nous ont fait comprendre que la Russie a un pays avec un leader. La Russie est d'ailleurs, au demeurant, un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors qu'en face, il y a une OTAN à 28 pays, 28 leaders. La Russie décide à la vitesse de l'éclair, alors qu'à l'OTAN, il faut parfois un petit peu de temps et qu'il n'est pas facile de répondre rapidement. Comment pourrions-nous améliorer le processus décisionnel à l'Alliance? Je vous remercie. Monsieur Battista, l'Italie. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, le 19 février 2012, deux marines italiens, Salvatore Gironi et Massimiliano Tare, ont été arrêtés en Inde après un échange de tirs avec un navire de pêche indien. Deux Indiens ont perdu la vie. Les deux Marines servaient sur leur cargo Erika Lexi. Leur affectation était de protéger ce navire contre les pirates. Comme vous le savez, c'est une situation très complexe, situation juridiquement et techniquement très complexe. Et deux années après l'incident, une nouvelle phase vient de commencer avec l'internationalisation de l'affaire, comme cela a été requis par les autorités italiennes et le grand public. Le 18 avril, l'Italie a envoyé une note verbale aux autorités indiennes faisant référence au principe de l'immunité fonctionnelle de ces deux Marines et l'exigence de passer à un tribunal international. Cela a entraîné un échange de vues entre les autorités italiennes et indiennes. Un groupe d'experts a été nommé et il a été prévu que les Marines reviennent en Italie. Mais si cet accord ne tombe pas dans les temps, les instruments internationaux de résolution de conflits, notamment l'arbitrage, seront requis. La semaine dernière, Monsieur le Secrétaire Général, vous avez exprimé votre solidarité avec ces deux Marines. Je me dois de souligner toutefois qu'afin d'obtenir un règlement devant un tribunal international, il faut que l'on tienne la cadence et que l'on conserve ce problème sous les feux de la rampe internationale. Ce n'est pas uniquement deux Italiens qui sont visés ici, ce sont les opérations de maintien de la paix internationale. Cela exige, c'est une question éminemment internationale, qui exige l'implication de l'OTAN parce que l'on parle de personnel italien au service de la communauté internationale. L'Italie est l'un des pays qui participe le plus aux opérations internationales aux quatre coins du monde.
que pourrait-il se passer, ce qui s'est passé pour ces deux Marines pourrait se passer pour n'importe qui d'autre, tout autre militaire ressortissant d'un autre pays. J'appelle donc à tous les membres de cette Assemblée et à tous les gouvernements de ne pas laisser l'Italie sans espoir. Cela prouvera alors la valeur réelle de notre alliance. Merci, merci Lorenzo Lord Jopling du Royaume-Uni. Monsieur le secrétaire général, je voudrais vous demander d'élaborer un petit peu sur la réponse que vous avez donnée à notre collègue français s'agissant de ce que vous entendez par les conséquences de l'article 5. Et ce faisant, je ne veux pas minimiser, certes pas minimiser le besoin d'insister sur l'importance du maintien de l'intégrité nationale et de la souveraineté de pays comme l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Ce que je voudrais que nous fassions, c'est vraiment essayer de vous faire vous exprimer pour ne pas interpréter vos paroles. Si les Russes étaient bêtes au point d'oser attaquer un membre de l'alliance qu'est l'OTAN, cela signifie la guerre. Je crois qu'il faut que vous le disiez en ces termes-là. Et j'aimerais aussi, monsieur le secrétaire général, lorsque vous irez au sommet au Pays de Galles au mois de septembre, que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir une déclaration unanime des chefs d'État et de gouvernement à ce sommet, y compris les Américains, et on a fait référence à ce qui a été dit par le président Obama l'autre jour, y compris les Américains, disais-je, que toute attaque de ce type par la Russie se solderait par la guerre.
Tout d'abord, monsieur Alaboyan de Turquie, à propos de nos processus de prise de décision. Et bien entendu, vous avez raison. En effet, il semblerait qu'il est plus rapide de prendre des décisions au Kremlin que lorsque 28 alliés de l'OTAN ou encore 28 membres de l'Union européenne doivent prendre une décision ensemble. Eh bien, pour ma part, je considère que c'est là quelque chose d'inévitable. Dans de véritables démocraties, les décisions vont prendre un peu plus longtemps à prendre. Cela étant, je pense que nous préférons malgré tout vivre dans de véritables démocraties. Alors évidemment, ça prend un certain temps que de faire part et sous-peser les différents arguments pour, en définitive, arriver à un consensus. Ainsi, je n'ai pas de solution miracle. Ce que je puis vous dire, par contre, c'est que nous sommes également en mesure de prendre des décisions rapidement lorsque cela s'avère nécessaire. Permettez-moi de vous rappeler que, dans les faits, cela n'a pris que 6 jours pour assumer la responsabilité de l'opération en Libye. Dans les années 90, lorsque l'OTAN a décidé de mener une opération dans les Balkans, ça l'avait pris plus de 6 mois pour prendre ce type de décision-là. Ainsi, il y a déjà eu une amélioration de nos processus de prise de décision. Et dans le cadre de cette crise-ci, nous avons également pu voir le Conseil de l'Atlantique Nord prendre des décisions rapidement. Nous avons pris le temps de la discussion, des échanges, mais nous avons également pris des décisions très rapidement, à mon sens. Donc encore une fois, je n'ai pas de solution miracle, parce qu'il s'agit d'un principe essentiel, à savoir que toutes les décisions sont prises au consensus. La force de ces décisions, c'est qu'une fois qu'on a pris une décision au consensus, alors il y a une alliance des plus robustes qui entre en mouvement. Donc la meilleure réponse que je puis vous donner, c'est que lorsqu'il y a un besoin politique et lorsqu'il y a une volonté politique, nous sommes également en mesure de prendre des décisions très rapidement. Monsieur Batista a parlé de la question des marins italiens et je partage complètement votre préoccupation. Pour ma part, je suis très inquiet par rapport au sort de ces deux marins italiens. Je suis également un petit peu préoccupé par rapport à l'idée selon laquelle ils pourraient faire face à un procès pour des actes de terrorisme. Voilà qui pourrait avoir des répercussions négatives pour ce qui est de la lutte internationale contre la piraterie, qui est évidemment une cause qui nous intéresse tous. Et donc, j'espère que l'on pourra avoir un règlement satisfaisant de cette situation dans un avenir proche. Enfin, Lord Joblin, je puis vous certifier que l'Alliance et l'ensemble des alliés de l'OTAN réagiront de manière déterminée si qui que ce soit devait attaquer un allié de l'OTAN. Il s'agit là de l'essence même d'une alliance de défense collective. Aucun allié aurait le moindre doute sur le fait que nous avons une obligation claire s'agissant de l'assistance à apporter à un allié qui ferait l'objet d'une attaque. Il s'agit du fameux article 5. On considère qu'une attaque contre l'un constitue une attaque contre tous. Et donc je puis vous assurer, et là je me fonde également sur des discussions que j'ai avec les dirigeants politiques dans les capitales, je puis vous assurer qu'il n'y a aucune hésitation s'agissant des obligations en matière de défense collective au titre de l'article 5.
Thank you.
Merci. Trois autres intervenants, Monsieur Rochilov Palenko d'Ukraine, suivi de Mme Reina Andrejczuk du Canada et M. Diego López Garrido d'Espagne. M. Polenko. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais tout d'abord me joindre à tous ceux qui ont fait part de leur remerciement au secrétaire général pour son travail à ce poste et notamment par rapport à ce qui s'est passé dans le cadre de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Je parle de ce que vous avez fait personnellement et puis ce que vous avez fait au nom de l'OTAN. À ce sujet, je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué brièvement, mais je voudrais vous demander d'en dire un peu plus par rapport à la question de la sécurité de l'information et les campagnes de désinformation et de propagande menées par la Russie, campagne qui vise à changer l'approche, la mentalité de bon nombre de membres de l'opinion publique en ayant recours aux journalistes, aux groupes de réflexion, etc. Il s'agit également d'avoir une influence sur la manière dont les décisions sont prises au niveau de l'Alliance. Je crois qu'à ce sujet, nous avons tous beaucoup de travail à battre. Et donc, comment est-ce que vous abordez ces questions? Merci. Reina. Merci. Je tiens à me joindre à ceux qui ont fait part de leur reconnaissance par rapport au travail que vous avez fait au nom de l'Alliance. Je voulais aborder la question ukrainienne dans une perspective et un contexte quelque peu différent, et mon collègue vient d'évoquer certains points à ce sujet. Je voudrais parler du type de renseignement et du type de guerre ou d'intimidation qui a été effectué par la Russie. Bien voilà qui est quelque chose de nouveau, et malgré cela, nous continuons d'aborder les questions par rapport à la Russie dans un contexte ou un cadre qui ressemble à la guerre froide. Or, le contexte stratégique a significativement changé. Il faut avoir en tête le Moldova, la Géorgie en 2008. Et donc, la question que je poserai est de savoir comment vous abordez l'Ukraine et la question ukrainienne dans un contexte élargi. D'autre part, nous voyons de nouvelles architectures sécuritaires, que ce soit dans la région Asie-Pacifique ou en Afrique. Alors, est-ce qu'il va y avoir des discussions par rapport au fait de renouveler l'OTAN dans un sens plus moderne, par exemple au niveau des services et des technologies de l'information, les questions de communication, la manière dont se passent les guerres de subversion, où très souvent on commence par des différents entre-États, mais ensuite il y a des acteurs non étatiques qui entrent en piste, si je puis dire. Et donc je voudrais être certaine qu'au Pays de Galles, on se penche sur le monde tel qu'il se dessine, plutôt que de revenir sur ce qui a pu être un différent stratégique entre l'Occident et l'Est. Diego López Garrido, d'Espagne.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Rasmussen. Monsieur Rasmussen, vous avez parlé dans votre intervention du besoin d'augmenter les dépenses en défense. Vous avez eu une approche quantitative essentiellement et vous avez lié cela à l'augmentation de la dépense en défense en Russie. Et moi, j'ai l'impression que nous ne devrions pas lier les deux choses, l'augmentation de la dépense à l'OTAN, la lier à l'augmentation de la dépense en Russie, parce que ceci nous ramènerait vers une logique de guerre froide que nous ne souhaitons pas. N'avez-vous pas l'impression que le plus important, ce serait d'avoir une approche qualitative, ce qu'on a appelé la smart defense ou le pooling and sharing, et parce que je crois qu'on a peu avancé dans ce domaine. Les États-Unis, pourtant, empruntent cette voie plus qualitative. Le discours important d'il y a 48 heures du président Obama à West Point allait dans ce sens, justement. Et les États-Unis vont diminuer leurs dépenses en défense, mais en ayant une approche différente aussi pour l'action militaire, c'est-à-dire que les menaces ne viendraient plus tellement d'autres États, mais plutôt de groupes terroristes, comme ceux qui sont présents en Afrique et au Proche-Orient. Et est-ce que cela va avoir une incidence sur Cardiff, sur le programme de Cardiff, pas seulement par rapport à la question en Ukraine aussi? J'aimerais également savoir quelle est votre opinion par rapport aux discussions et les différends qu'il y a par rapport au traité entre l'Union européenne et les États-Unis et le fait que l'on introduise dans ce débat le matériel de défense. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Mr. Polenko.
Tout d'abord, Monsieur Polenko, d'Ukraine, vous m'avez demandé d'en dire un peu plus au sujet de ces campagnes ou opérations de désinformation. Eh bien, il y a eu des exemples très concrets que j'ai pu voir de mes propres yeux lorsque je me suis rendu dans différents pays de l'Alliance, qui peuvent parler de la manière dont ils perçoivent cette influence croissante de la Russie par rapport aux médias, par rapport aux ONG. Cela vaut notamment pour des organisations soi-disant écologistes, soi-disant environnementales, qui luttent contre le recours à des sources d'énergie alternatives. De toute évidence, l'objectif est de faire en sorte que les pays européens continuent d'être dépendants des énergies provenant de la Russie. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une manière assez subtile et développée de conserver cette dépendance. On finance donc des ONG soi-disant environnementales qui luttent, par exemple, contre l'exploitation du gaz de schiste. Donc je vous donne un exemple très concret, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu des informations. D'autre part, on voit que la machine de propagande russe est des plus actives. Je crois que notre réaction doit en partie reposer sur la manière dont des informations plus justes pourraient être communiquées en russe. Voilà au moins une piste, un instrument auquel on pourrait avoir recours. Et lorsque l'on sait qu'il y a une infiltration russe au sein de l'opinion publique, bien par rapport à cela, il serait très important de prendre des mesures, et ce au niveau de l'ensemble des pays de l'Alliance et des pays partenaires. Madame Andreïchuk, je crois qu'il y a deux volets dans votre question. Tout d'abord, effectivement, nous abordons ceci dans un contexte stratégique élargi, parce que les choses vont bien au-delà de la Crimée et de l'Ukraine. De toute évidence, nous sommes là dans le cadre d'un phénomène plus général, plus global. La Russie a intérêt à faire en sorte que perdure les conflits en Transnistrie pour le Moldova, en Ossétie et en Abkhazie pour la Géorgie, puis je rajouterai même Nagorno-Karabakh à cette liste, parce que les Russes savent que ces conflits constitueront également des obstacles quant à une possible intégration euro-atlantique de ces pays. Donc manifestement, il faut que l'on aborde ces questions en tenant compte d'un contexte stratégique plus large. L'autre volet de votre question, je crois, c'est celui des acteurs non étatiques, le fait d'avoir de meilleurs renseignements et des meilleures technologies de l'information. Eh bien, vous avez tout à fait raison, et c'est d'ailleurs de cela que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous devons nous adapter à ces nouvelles manières de mener une guerre, et sachez que nous adopterons les mesures nécessaires en ce sens. Monsieur Lopez-Garrido, je suis d'accord pour dire qu'il faut effectivement que nous ayons également une approche qualitative. Et je crois que dans le débat d'aujourd'hui, j'ai également indiqué que la question ne reposait pas que sur les quantités et les montants, mais également la qualité. Ne vous méprenez pas. Je ne crois pas qu'il y ait toujours une solution militaire à un conflit. Je suis loin de penser cela, d'ailleurs. Mais quelque chose qui est très clair dans mon esprit, c'est que fort souvent, les processus politiques et les solutions diplomatiques deviennent plus faciles si votre homologue, entre guillemets, sait que vous avez également un bâton auquel vous pourrez avoir recours si les processus pacifiques, politiques, diplomatiques ne produisent pas les résultats escomptés. Alors bien entendu, il s'agit là de mon point de vue personnel, mais je dois quand même vous indiquer que c'est quelque chose que je pense très profondément. Je crois que c'est la menace crédible de lui recours à la force en Syrie qui a convaincu le régime syrien et la Russie du fait qu'il serait préférable de se débarrasser des armes chimiques en Syrie. À titre personnel, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Cela aide à trouver des solutions pacifiques. Et en l'occurrence, la solution, c'était que l'on se débarrasse de ces armes chimiques. Et d'ailleurs, ce qui a aidé à cela, c'est qu'il y avait des pays qui étaient prêts à faire part d'une menace crédible de recours à la force militaire. Donc même s'il n'y a pas de solution militaire à l'ensemble des problèmes qui se posent dans le monde, parfois, il peut être utile que des agresseurs potentiels sachent qu'ils vont provoquer une réaction très ferme de notre part. Nous ne devons pas être naïfs. Si nous, les démocraties, nous voulons défendre et promouvoir nos valeurs, alors nous devons également être capables et disposés à défendre ces valeurs, y compris parfois en ayant recours à cette forme de pouvoir-là. À présent, je crois que mon point de vue est tout à fait clair. Monsieur le Président, je crois que le moment est venu pour moi de vous quitter. Permettez-moi simplement de faire une remarque en guise de conclusion. Je voudrais tous vous remercier très chaleureusement. Je respecte et admire véritablement le travail que vous effectuez en tant que parlementaire. J'ai moi-même été parlementaire pendant bon nombre d'années, 31 années en tant que membre du Parlement danois. J'ai également passé quelques années à être ministre et même Premier ministre de mon pays. Et j'ai toujours eu le plus profond respect pour le travail des parlementaires. Et croyez-moi, j'ai toujours été heureux de me rendre au Parlement pour des séances de questions-réponses avec le ministre ou le Premier ministre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons également prolongé cette période de questions-réponses ici à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Car je crois que c'est un élément essentiel de notre démocratie que de faire participer les parlementaires aux politiques de sécurité et de défense. Ce n'est pas quelque chose qui n'est que du ressort des gouvernements. C'est quelque chose qui relève également des parlements. Et c'est la raison pour laquelle, d'emblée, lorsque je suis devenu secrétaire général, j'ai véritablement tenu à vous rencontrer en tant que parlementaire OTAN. Donc, de nouveau, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour vos mots des plus aimables aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre soutien pendant mon mandat en tant que secrétaire général de l'OTAN. Merci bien. Chers collègues, je sais que vous voudrez que j'indique au secrétaire général que nous respectons pleinement la contribution qu'il a pu faire à notre Assemblée. Votre travail à l'OTAN n'est pas fini, loin de là, il reste notamment le sommet et nous vous souhaitons une bonne continuation dans ce cadre-là. Mais nous voudrions également vous remercier pour le travail que vous avez accompli. Nous nous félicitons notamment de l'engagement que vous avez pris en matière de transparence et de dialogue, d'avoir un rapport annuel de l'OTAN, le fait que les comptes audités doivent être publiés. Nous nous félicitons également du soutien que vous avez pu apporter à cette institution avec cette décision sans précédent de passer 2 heures à répondre à nos questions. Alors, je voudrais vous présenter, comme marque de notre profonde gratitude, ce trophée.
Thank you.